Bonjour à tous. Dans le cadre de l'opération Agir pour ma planète lancée par Radio France et alors que la COP24 vient de débuter à Katowice en Pologne, on va s'interroger sur notre rapport à la nature avec la philosophe Virginie Maris, philosophe au CNRS et membre du Comité national de la biodiversité pour son nouveau livre La part sauvage du monde qui paraît au seuil. Alors le monde sauvage existe-t-il encore? On en parlera à partir de 12h55. Mais d'abord, réalisateur à la marge, éclectique, imprévisible, on l'a vraiment connu avec Le Poulpe, reconnu avec L'Enlèvement de Michel Houellebecq, puis La Religieuse et Valley of Love. Guillaume Niclou revient avec Les Confins du Monde en salle demain, porté par Gaspard Ulliel et Gérard Depardieu. Guillaume Niclou est notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Une plongée dans l'histoire coloniale et dans l'enfer silencieux de la guerre. Indochine, 1945, plusieurs forces en présence, les indépendantistes, les Japonais et l'armée française. Robert Tassen est le seul rescapé d'un charnier. À ses côtés, son frère s'est fait massacrer sous ses yeux. Ce jeune militaire français part à la recherche de l'assassin et sur sa route croise Mei, une jeune prostituée indochinoise dont il tombe amoureux, et un écrivain qui tente de lui éclairer le chemin. Bande-annonce.
Le deuil est une drôle d'épreuve. Un jour, on croit en être sorti, et puis non. Il est toujours là, incrusté avec sa colère.
Et mon frère aussi, lui a coupé la tête.
D'une certaine façon, on est de la même famille. Des rescapés.
Tu diras à Bobine que mon nom, c'est Robert Tassen et que je le lâcherai pas.
Sachez qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Je parle de vous. De votre ennemi intérieur.
Occupez-vous du vôtre et oubliez-moi.
Putain, tu fais chier. Hein. C'est sûr que tu vas aller dans ce merdier.
Vous êtes là pour servir la France, pas pour régler vos comptes?
Je la sers, la France.
Moi, je suis libre. Reviens ce soir.
Ce soir, je peux pas. Demain, je serai peut-être plus là.
Je veux pas crever ici. Ça t'emmerde, ça, que j'ai pas envie de crever.
Je serai jamais comme tu veux. Pars, va-t'en.
L'amour, ça prend de la place.
Pas la bonne place.
Et vous voulez la mettre à quelle place, votre vengeance?
Bonjour Guillaume Niclou.
Bonjour.
Troisième volet d'une trilogie autour de la quête après Valley of Love et The End. Avec Les Confins du Monde, on entre en zone de flottaison géographique et historiographique. Celle de l'après-guerre en Indochine, c'est une autre vallée de la mort, une autre forêt labyrinthique que vous gagnez. La jungle, cette fois, vous aviez encore envie de vous aventurer en territoire lointain et incertain. Pourquoi ?
C'est ça un petit peu l'exploration en fait de l'intime. C'est de pas forcément rationaliser nos désirs, mais de les laisser s'exprimer. Moi, en l'occurrence, je le fais par l'écrit en premier, et puis ensuite en essayant de modifier cet outil qui me sert à essayer de placer tout le monde dans un état un peu curieux, qui est celui de créer en même temps et d'essayer d'être juste. De mentir le plus sincèrement possible avec l'histoire qu'on souhaite raconter, mais surtout de profiter des éléments qui nous entourent. Et quand vous parlez de décor, c'est là où ça devient extrêmement prégnant pour moi, c'est quand je me mets dans un état, j'essaie en tout cas de me mettre dans un état de disponibilité qui me permet d'incorporer toutes les contraintes, qu'elles soient géographiques, climatiques, pour qu'elles participent à la création de ce qu'on est en train de produire, en fait. Donc c'est d'essayer de trouver un maximum de liberté à l'intérieur de la contrainte. Et cette contrainte géographique, elle est très importante pour moi. Alors vous avez parlé du désert, de la forêt ou de la jungle. Ça en fait partie, mais également les monastères de la religieuse en étaient aussi.
C'est-à-dire qu'on ne se trouve jamais mieux soi-même ou on ne s'explore jamais mieux soi-même que dans un territoire presque sauvage, inabordable, extrêmement vaste aussi, parce qu'on peut vite se perdre dans cet espace-là.
Oui, mais surtout avec le terme dont vous, que vous employez, c'est-à-dire soi-même. Je ne crois pas qu'on soit réellement soi-même. Si on admet être plusieurs à l'intérieur de soi, alors ça ouvre quand même un champ des possibles encore plus vaste. Et ça nous permet d'essayer en tout cas de se connecter à un moment donné. Et encore une fois, sans rationaliser forcément, sans faire de psychologie. C'est simplement le sentiment à un moment donné d'être juste avec ce qu'on a envie de faire ressentir ou de ressentir soi-même. C'est cette connexion-là qui est très intéressante en fait. Et si on se place avec un personnage, avec une quête existentielle dans laquelle ce personnage est traversé par une problématique qui est celle de ne pas choisir, de ne pas pouvoir choisir entre la vengeance et la passion amoureuse, ah bah du coup on est au cœur quand même d'une problématique assez puissante. Et si on mêle à tout ça les éléments qui vous entourent, ça peut devenir en effet assez explosif.
Voilà,
enfin, explosif, toujours dans la difficulté, mais dans la jouissance en même temps.
Avec cette double confrontation pour votre héros, Robert Hassen, confrontation avec lui-même et confrontation avec un ennemi invisible, c'est un duel à distance qui va se jouer. Il va tenter de retrouver celui qui a assassiné son frère, personnage obscur qu'on ne voit jamais. Guillaume Nicloux, c'est ce confin du monde. Hein. C'est moins un film de guerre qu'un film sur nos guerres intérieures. Il est question ici pour ce soldat de s'accomplir, vous l'évoquiez, dans la vengeance ou dans l'amour. Cet amour qui prend de la place, pas la bonne place, c'est ce qu'on entendait dans la bande-annonce. Et c'est aussi une plongée au cœur de nos ténèbres pour vous. Ça reste un film très sombre, cette exploration.
Oui, et en même temps très lumineux, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en effet, je me suis aperçu que ce film, finalement, était le troisième volet d'un triptyque. Mais je m'en suis aperçu...
Ça n'a pas été pensé comme tel.
Pas du tout. C'est-à-dire, je m'en suis réellement aperçu au fur et à mesure des avant-premières, des interviews, des débats. Et là où, en effet, je me suis dit, mais finalement, oui, quand je suis rentré de la Vallée de la Mort, on devait rentrer en production pour ce film, et j'ai demandé à Sylvie Pialat d'arrêter, que j'avais besoin de réécrire. Mais j'avais besoin de réécrire pour une raison très simple, c'est que Gérard Depardieu était rentré dans mon film et dans ma vie. Donc du coup, le scénario s'est retrouvé totalement modifié, et le personnage de Robert Hassen également. Et il a trouvé sa ligne, il a trouvé son parcours. Et au sortir de cette écriture, au sortir de Valley of Love, j'ai eu besoin de tourner à nouveau avec Gérard, et puis il y a eu les confins. Mais finalement, si je regarde bien, Valley of Love, c'est l'arrivée de Gérard, les confins, c'est l'arrivée de Gaspard, et au milieu, il y a The End. Et au milieu, c'est moi, d'une certaine façon, puisque j'avais demandé à Gérard de jouer mon propre rôle dans un des rêves que j'avais fait. Il y a quelque chose d'implacable, finalement. On s'aperçoit que même sans cette volonté qui déterminerait ce qu'on va raconter au fur et à mesure d'un récit, d'une évolution très structurée, pensée, bah ça peut être beaucoup plus fort, finalement, de laisser vivre ses pulsions, ses désirs, et de les découvrir ensuite.
Acteur rêvé, Gérard Depardieu, on l'écoute dans une scène du film, extrait des confins du monde.
Je rentre de Saigon, là-bas c'est la grande fête, la décadence. On dirait que les Français célèbrent le champ de ruines qui est devenu l'Europe.
C'est pour me dire ça que vous êtes revenu ?
Non. Non. J'étais à Cabichotan le jour du massacre, comme vous. Je suis parti avant. D'une certaine façon, on est de la même famille. Des rescapés.
Pourquoi vous m'avez rien dit ?
Complexe du survivant. Quand j'ai écouté votre histoire, monsieur le commandant Ornan, je me suis senti moins seul. Moins coupable.
Coupable de quoi ?
D'être vivant. Ça vous le fait pas, vous ?
Alors, ta scène, jouée par Gaspard Ulliel, est un survivant, peut-être comme tous ceux qui ont approché la mort de trop près. Quelle relation va se tisser entre les deux, entre le soldat ta scène et l'écrivain, Depardieu ?
Un rapport trouble et en même temps un lien très, très fort, comme si Gérard Depardieu, son personnage, était une sorte de perte de substitution qui pourrait être là pour le guider, en tout cas le faire retomber la poussière, comme on dit, de façon à ce que les choses soient plus claires et qu'il puisse enfin choisir avec le bon côté, mettre derrière lui le côté obscur, c'est-à-dire choisir l'amour plutôt que la vengeance.
Mais sauf que cette voix de la sagesse, il ne l'écoute pas parce qu'il est sous l'emprise de ses propres émotions, Tassène. Ouais, hein. Ouais. D'ailleurs, vous l'évoquiez, ce dilemme entre la vengeance et l'amour, il n'arrive pas à faire cohabiter ces deux sentiments. Visiblement, il s'oppose chez lui. Pourquoi, pour vous? Parce que d'un côté, l'amour est une force de vie et la vengeance, une pulsion de mort.
Mais parce que sans doute, ce sont les deux facettes d'une même médaille. On est dans le désir. Et le désir ne se rationalise pas, et heureusement. On est dans l'expression de quelque chose qui nous dépasse, qu'il est impossible d'expliquer. Duras en parlait très très bien. De ce monde que l'on vit, mais qui est impossible à expliquer. Et qui finalement détermine tout ce que l'on fait. Même si on place ça du côté inconscient. Enfin, il agit. Donc c'est quand même quelque chose qui est finalement le plus important. Après, on se bat avec. On lutte pour essayer de se construire des convictions. Mais comme la conviction, c'est l'ennemi du désir, il faut bien faire des choix à un moment donné. On vit dans une société qui nous oblige à réagir selon des principes quand même très 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 établis. Alors c'est dommage parce que finalement, on peut se demander est-ce qu'il faudrait pas mieux vivre d'une façon fulgurante en laissant parler nos instincts et puis tenter de traverser. Voilà, une période de vie beaucoup plus intense, beaucoup plus vive. Là, en l'occurrence, ce personnage le fait sur un an et demi, plutôt que dans la tiédeur pendant plusieurs décennies. Donc c'est en effet des questions qu'on pourrait se poser. Oui. En tout cas, ne choisit pas.
Il n'arrive pas à choisir.
Il n'arrive pas à choisir, mais il ne choisit pas.
En effet.
Il choisit de ne pas arriver à choisir.
Guillaume Niclou, vous avez lu ou relu Duras avant d'aller tourner Les Confins du Monde? Parce que c'est vrai que quand on pense ou qu'on parle Indochine, on a tout de suite tendance à penser à l'auteur de L'Amant et beaucoup d'autres romans qui s'inscrivent aussi dans ce décor-là, qui était celui de sa vie, de sa jeunesse.
Oui, j'ai relu Marguerite Duras sur les conseils de Jérôme Beaujour, qui a travaillé avec moi sur le scénario, parce qu'il l'a beaucoup côtoyée, il a écrit avec elle. Et la notion du désir, justement, était très importante. Et il m'a penché sur des écrits d'elle, des témoignages. C'était très intéressant, en fait, d'écouter. Mais ça ne m'a pas servi à comprendre, mais ça a donné des mots sur cette incompréhension. Et c'est important parce que finalement, ça permet d'avoir de la matière vive que l'écrit alimente. Et des fois, c'est très nourrissant, en fait, de se laisser imprégner par des sujets ou par des avis qui ne seraient pas forcément ceux qu'on aurait pu imaginer, comme Marguerite Duras, qui n'était pas totalement lié à son œuvre, mais... En l'occurrence, ça m'a beaucoup intéressé. Oui.
C'est étonnant, vous êtes allé relire Duras plutôt pour explorer cette question du désir telle qu'elle la travaillait, plutôt pour cela, pour essayer d'aller comprendre le climat de l'époque, le pays, sa lumière, peut-être même une certaine vérité historique, puisque vous repartez en plus d'un fait réel, le massacre de mars 1945. C'est pas ça qui vous a guidé, c'est pas cette recherche-là de véracité historique qui vous a guidé vers ces lectures-là?
Non, en fait, je me suis imposé presque de me documenter, de lire. Mais c'est vraiment la partie la moins intéressante, en fait, parce que pour moi, la vérité historique, elle veut rien dire. Il n'y a pas de vérité historique, il y a une vérité à chaque fois, totalement subjective. Alors évidemment, tout ce qui est factuel est a priori indiscutable, mais c'est le sentiment de la vérité qui m'intéresse, c'est ce qui passe par le témoignage, notamment la parole. Et pour ça, j'ai eu la chance d'avoir les récits de Raoul Coutard, avec qui j'ai pu réaliser trois films. Il a éclairé mes trois films, et puis il a participé à cette culture, à me préparer à cette plongée dans l'Indochine, parce que j'avais 22 ans quand il a commencé à me raconter ses souvenirs indochinois, et tout ça est remonté à la surface au moment où je me suis intéressé à cette fameuse date. Donc c'est surtout cette nourriture-là, une nourriture de récits...
De témoignages.
Ouais, de témoignages. Et puis c'est vrai que j'ai essayé d'oublier le plus possible toute cette documentation, toute cette nourriture littéraire, mais qui est finalement assez peu passionnante. J'ai plutôt essayé de favoriser tout ce qui pouvait me permettre de cultiver une guerre fantasmée, en fait.
Raoul Coutard, qui a éclairé trois de vos films, et notamment le premier, La Piste aux Étoiles, un homme qui vous a influencé formellement et sur le choix du sujet, c'est le réalisateur et le directeur de la photographie. C'est lui qui avait aussi réalisé La Lumière du Crabe Tambour, et avant cela, en 64, de la 317e section de Pierre Schoendoerffer. C'était lui, tout cela. Dans cette archive, il raconte les conditions du tournage en Indochine.
La vraie idée, c'était de tourner le film comme nous on avait vu la guerre, c'est-à-dire ou comme on avait vu la guerre comme journaliste ou reporter ou comme combattant, et c'est-à-dire de se dire voilà ce qui se passe quand on est dans une section. L'ennemi, on ne le voit que mort ou furtivement quand il est vivant.
Comment c'était pour vous de recréer la lumière d'Indochine?
Mais je veux dire, en attendant la Chine.
J'ai bien. Enfin, bon, la lumière, il faut quand même la maîtriser.
Non, mais là, il n'y avait pas de.
Il y avait
problème.
Des consignes, non?
Non, il n'y avait pas de problème, là. Je veux dire, c'était un truc qui a été tourné sans lumière d'appoint, sauf deux ou trois trucs où on avait deux lampes. Il n'y avait rien, je veux dire. On avait un petit groupe électrogène qui devait faire un kilowatt ou un truc comme ça. Bon, mais c'était tout. Je veux dire, donc, c'est un film tourné dans les conditions, disons, d'un reportage confortable. En tant que prise de vue, j'entends. Comme on avait fait tous les deux la guerre, donc on savait très bien de quoi il s'agissait.
Le chef Raoul Coutard décédé il y a 2 ans, vous aviez le projet de l'emmener avec vous? Ou ce
non.
Film n'était pas encore...
Non, mais on s'est parlé très peu de temps avant que je ne parte. Enfin, quelques mois avant. Ouais. Et ce qui est troublant, c'est que finalement, au fil de toutes nos conversations, et il y en a eu beaucoup, enfin, moi, j'étais surtout l'écouteur, mais j'adorais l'entendre m'en parler. Parce qu'il y avait une forme d'exaltation, mais qui était teintée à la fois de nostalgie, de violence, d'amour, de passion. Il était marqué à vie, quoi. Ces quelques années, il avait totalement happé. Quelques mois avant, je l'ai appelé pour, justement pour lui dire que je m'étais un peu inspiré d'un soldat qui avait existé, qui s'appelle Van der Berg. Et il m'a fait le récit de ses sorties nocturnes avec lui. Je savais pas qu'il l'avait rencontré. Et il m'a donné aussi la version, sa version de la mort de ce personnage, qui est évidemment pas celle de la vérité historique. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Qui n'est pas celle du film non plus.
Non, du tout. Non. Moi, encore une fois, c'est parfois, vous savez, un personnage existant sert de catalyseur. Il vous permet juste d'un seul coup de poser le premier mot sur le papier, puis ensuite vous partez dans une autre direction. Et puis souvent, vous retirez les textes qui vous a servi à démarrer d'ailleurs.
Et il parle de la lumière dans cet extrait, mais il pose aussi une bonne question. Comment tourner la guerre quand on ne l'a jamais fait? À cela, vous répondez-vous probablement à travers les récits qu'on a pu vous donner, mais c'est encore autre chose. C'est pas simplement aller tourner en terra incognita, c'est effectivement raconter la guerre. Comment vous avez voulu montrer cette guerre très anonyme, presque invisible, cette tension qui se jouait entre les différentes parties à ce moment-là, en présence?
J'essaie de proposer un voyage. Et je pense que les premières minutes du film, même les premières secondes, placent le spectateur dans le regard du personnage en lui indiquant que c'est à travers son regard qu'on va découvrir cette guerre. Mais c'est une guerre, encore une fois, fantasmée. Le cinéma, c'est tout sauf la vérité. Le documentaire, c'est tout sauf la vérité. On est toujours prisonnier d'un cadre, on réinvente ce qu'on filme. Donc moi j'ai aucun problème avec cette vision totalement rêvée, totalement subjective de faits historiques. Les faits historiques servent de tremplin pour lancer le récit et voyager, proposer un voyage au spectateur.
Mais c'est aussi une guerre qui nous plonge dans le trouble des soldats, dans leur peur, qui nous plonge aussi dans cette virilité perdue, comme dans toutes les guerres, ou en tout cas recherchée des soldats particulièrement menacés ou exposés par ce qui est en train de se jouer dans la guerre. On pense souvent, quand on voit des films comme le vôtre, des films de guerre dans des terrains ou des pays lointains, à Apocalypse Now, à cette vengeance aussi qui se transforme en quête quasi mystique dans la jungle. Mais il y a une autre référence, peut-être plus lointaine, vous nous direz si elle vous correspond, c'est celle de l'échelle de Jacob d'Adrian Lyne, qui raconte l'histoire de Jacob, vétéran de la guerre du Vietnam, victime de toutes sortes de visions, de rêves, de fantasmes, de peurs. Dans cet extrait qu'on va écouter, Jacob retrouve l'un de ses anciens compagnons de bataillon et il raconte comment il se sent traqué.
C'est comme si j'étais en enfer. Il n'y a aucune autre façon de l'expliquer. Et surtout, dis pas que je suis cinglé. Je sais que non, mais... Mais ils me poursuivent. Mais qui ça? Ils me traquent constamment. Je les vois même sortir des murs. J'ai confiance en personne. Mais c'est trop dur, il faut que j'en parle. Je te jure, si j'arrive pas à en parler, je vais perdre la boussole, bordel !
Le purgatoire hein, pour ces hommes, là, on n'en sort jamais indemne de ces guerres, même intérieures, hein, Guillaume Niclou.
C'est rare de citer ce film. C'est pas le film dont on parle le plus souvent quand on évoque la guerre du Vietnam. Mais curieusement, ce sont pas les films de guerre qui m'ont finalement pas guidé, mais en tout cas qui ont été une source de, voilà, d'inspiration. Un petit peu avant, j'ai plus pensé à un film comme Zombie de Romero, parce que la vision en effet fantomatique de tous ces soldats avait quelque chose d'assez zombiesque en fait. Il y a quelque chose qui, surtout que ce personnage principal, sans dévoiler la suite du film, mais s'extrait d'une fosse, c'est un rescapé, c'est un survivant, et malgré tout on a le sentiment qu'il est déjà un peu passé de l'autre côté. Comme Gérard Depardieu dans Zien. Voilà, il y a une espèce de frontière extrêmement poreuse entre ce qu'ils vivent et un sentiment très, très irréel. Donc c'est cette frontière qui m'intéresse, c'est de plonger le spectateur dans quelque chose qui lui échappe, mais de toucher à une forme d'impressionnisme et de laisser tomber la compréhension pour essayer de s'intéresser aux impressions et aux émotions.
Alors c'est un film en forme de spirale opiacée. Comme le dit votre comédien, acteur Gaspard Ulliel, c'est un film en tout cas très séquencé, chapitré. Est-ce qu'on retrouvera cette forme dans la mini-série que vous venez de tourner, je crois, achevée de tourner pour Arte, qui sera diffusée courant 2019, Il était une seconde fois, qui est un voyage temporel et amoureux avec Gaspard Ulliel, que vous retrouvez, Again, et qui le ramène à avant sa rupture avec une femme, avec la femme qu'il aimait. Louise ?
Oui, et d'une certaine façon, on peut aussi se demander si ce n'est pas le prolongement de ce personnage de Tassen qui finalement regrette de ne pas avoir vécu ce qu'il devait vivre dans les confins du monde.
Ah, pour boucler la boucle, voilà, d'où cette forme en spirale, aussi peut-être, dans vos projets.
Peut-être.
Gaspard Ulliel qui dit que vous êtes quelqu'un qui cherche pour trouver. Gérard Depardieu, lui, de son côté, dit que vous êtes un réalisateur qui savait ce que vous voulez. Vous êtes où entre les deux?
Entre les deux, sans doute. Alors, la vérité
au milieu
là-bas.
Du guet.
Sans doute. Oui, entre les deux, sans doute. Ouais.
Mais vous aimez bien vous laisser surprendre par vos acteurs. Parce que ce qui ressort de leurs témoignages à tous les deux, sur les conditions de tournage, c'est que vous les laissez extrêmement libres. Les laisser libres, c'est aussi vous laisser à vous la possibilité d'être surpris par ces personnages que vous mettez en scène. Là, on parle de Gérard Depardieu, de Gaspard Ulliel, on pourrait penser à Michel Houellebecq aussi, dans l'enlèvement que vous avez simulé. C'est des personnalités très fortes. Il y a cette idée de ne pas vouloir les brider.
Oui, en tout cas, j'adore être dépossédé. Donc ça, c'est la première disposition dans lequel c'est un état très particulier. Accepter d'être dépossédé. Parce que je pense qu'à partir de ce moment-là, on se remplit d'autre chose. Et cette chose, ce sont eux qui me le donnent. Donc c'est ça que je trouve très très excitant, moi. C'est de voir se fabriquer en même temps ce qu'on met sur la table. Et on se réunit et puis on invente ensemble. Et c'est cette disposition-là que je trouve extrêmement jubilatoire. C'est mon plus grand plaisir, en fait. C'est de se confronter chacun à essayer d'être ici et maintenant ensemble et d'essayer d'être juste.
Guillaume Niclou, vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 12h30.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Pas la passer.
Demain, Guillaume Niclou, sort également un autre film, le très beau L'étau de Kirill Serebrennikov. C'est une plongée dans la scène underground rock russe des années 80. C'est un film passionnant et plein d'énergie avec une bande-son magistrale. Et comme vous êtes vous aussi un réalisateur assez rock, écoutez un extrait de L'étau, la bande-son.
Лето, я изжарен как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. А-а-а. Лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. А-а-а.
Alors Kirill Serebrennikov, le cinéaste russe, est actuellement assigné à résidence à Moscou, ce qui fait qu'on ne peut pas l'entendre défendre ce très beau film qui avait été bien exposé, heureusement déjà à Cannes lors du dernier festival. On va cependant écouter le réalisateur au micro d'Antoine Guillaume dans Plan Large à l'occasion de la sortie de son précédent film, Le Disciple, nous parler de sa relation au cinéma et de la place du rôle de l'artiste dans la société.
Je pense qu'il y a toujours un risque, effectivement, que le spectateur ne te suive pas, ne te comprenne pas, mais je vais dire que c'est plutôt un autre diagnostic que le mien. Vous savez, pour moi, le cinéma est un miroir. Je réfute l'idée que le cinéma soit comme une affirmation, quelque chose de messianique. Je ne crois pas que l'artiste ait une mission disant « moi, je pense que si, ma création va vous pousser à penser cela ». Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le cinéma est effectivement un miroir et j'ai envie que l'amalgame que je crée renvoie le spectateur à lui-même et qu'il se voit lui-même. Et je pense que ce film peut être revu dans un certain temps, qu'il sera peut-être interprété différemment. Ça va dépendre aussi de ce que nous serons devenus.
Kirill Serebrennikov pour L'étau en salle aussi demain. Guillaume Niclou, ce rôle messianique du cinéma, vous n'y croyez pas non plus ?
Pas tellement, non. Non, je trouve sa définition très, très juste. Ouais.
Et quand il dit qu'il n'a pas peur que le spectateur ne le suive pas, vous, vous êtes inquiet quand vous faites un film qui est quand même très à part, une fois encore comme aux confins du monde. Vous craignez que les spectateurs ne vous suivent pas ou c'est une question qui, là encore, ne guide pas vos choix ?
On espère toujours qu'ils soient le plus nombreux à profiter de ce que vous offrez et de cette vision que vous avez à un moment donné d'une histoire que vous racontez. Donc oui, c'est une préoccupation, bien sûr.
Parce que c'est un film qui est comme un parti pris personnel et c'est aussi un film plein d'audace. Les confins du monde est à voir demain en salle, au cinéma, donc film de Guillaume Niclou, ainsi que L'étau, le nouveau film de Kirill Serebrennikov. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.